Notre invité aujourd'hui, Naïma Badidi. Bonjour Naïma.
Bonjour.
Vous êtes responsable gouvernance data et outils DataVise SNCF Connect & Tech. Première question que je voulais vous poser, pouvez-vous définir votre périmètre d'activité? Et à titre indicatif, peut-être nous donner une idée du volume, du nombre de data que vous gérez chaque année dans vos services?
On a deux activités. La première, c'est l'activité d'e-commerçant distributeur. Le site et l'application SNCF Connect, qui permet justement de rechercher, acheter, gérer des voyages de courte ou de longue distance avec de l'information voyageur et des itinéraires. Nous comptons à environ 3 millions de visites par jour et 14,2 millions de clients actifs en 2022. La seconde activité est l'activité de tech, concepteur, développeur et opérateur de produits et de solutions de services numériques pour le groupe SNCF. Alors, à titre indicatif, ça nous fait au total, pour les deux activités, environ 1000 collaborateurs, dont deux tiers sont des experts tech qui sont répartis sur les sites de Lille, Nantes et Paris. Et pour info, on recrute. Je glisse le petit mot. Le message est passé. Moi, je suis la responsable gouvernance data et data visualisation pour l'activité e-commerçant distributeur. Mon périmètre d'intervention est sur tout ce qui est gouvernance et culture data, et sur le pilotage de notre programme data d'entreprise et sur les outils de data visualisation de l'entreprise.
Vaste périmètre, voilà. Si j'ose dire.
Tout à fait.
C'est génial.
J'imagine.
Est-ce que dans ce contexte, la transformation digitale et les nouvelles technologies ont eu un impact dans la gestion des data et dans votre quotidien, indirectement ou directement d'ailleurs?
Alors oui, une des étapes clés, ça a été la migration dans le cloud. En fait, cette transition, elle nous a permis de libérer des ressources précieuses et d'améliorer l'évolutivité de nos systèmes. Nous avons inscrit cette démarche, cette transition, dans une collecte responsable des données. Parce que l'une de nos convictions, c'est que la collecte ne devrait pas être une fin en soi, mais plutôt le moyen stratégique de mettre en œuvre des use cases pertinents et impactants. En fait, nous cherchons tout simplement à maximiser la valeur ajoutée pour nos clients, nos collaborateurs, nos processus et nos décisions. Et le tout, qui est important, tout en respectant scrupuleusement les principes de confidentialité et de responsabilité. Et en fait, cette orientation, elle guide vraiment notre usage de technologie, puisqu'en fait, c'est elle qui nous a amené à la mise en place d'une collecte unifiée mobile et web. Et le bilan est positif, puisque grâce à cette orientation, ce changement qu'on a mis en œuvre, on a un bilan positif parce que nous avons une architecture plus robuste, on garantit la protection des données sur tous les canaux et on réduit l'empreinte client pour un numérique plus responsable.
Sans faire de science-fiction, que vont vous apporter ou nous apporter ces nouvelles technologies? Et finalement, comment l'IA peut-elle avoir un impact dans nos vies, selon vous?
Alors, mon intime conviction, c'est qu'on ne peut pas arrêter le progrès. Moi, je pense que l'intelligence artificielle, elle va nous permettre d'améliorer significativement plein d'aspects de notre vie, tant professionnelle que personnelle. Par exemple, on peut améliorer notre efficacité au quotidien. Vous savez, on a beaucoup de tâches répétitives, et si on mettait de l'IA pour prendre en charge ces parties-là, ça nous permettra d'être un peu plus focus sur des activités à forte valeur ajoutée. Il faut arrêter de diaboliser l'IA. Je pense que l'IA va permettre de personnaliser ses services pour que la personne accède directement qu'aux services qui les intéressent en fait, et pas être polluée justement par d'autres éléments qui en fait sortent de leur cadre d'intérêt.
Là, je vois, vous parlez très positivement de l'IA. L'IA peut vraiment nous servir dans notre quotidien. Et là, je parle en tant que consommateur final, si j'ose dire, de par exemple vos activités. Mais vous, au sein même de SNCF Connect & Tech, comment est-ce que vous abordez ces questions de technologie et pour quelle finalité? Parce que l'IA s'est imposé comme un outil incontournable aujourd'hui. Concrètement, comment cela se traduit-il chez vous?
On raisonne toujours, comme je vous avais dit, par use case. Et nous, on a identifié des éléments qui peuvent être testés pour qu'on puisse ajouter de l'IA qui est de la plus-value. On a des éléments côté relation client et des usages côté mobilité. Vous savez, nous, on a déjà, en 2016, créé Talk. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la solution conversationnelle open source qui a été adoptée par un grand nombre d'acteurs, banques, énergie, éducation et autres.
D'accord.
Et après, ce qu'on a fait, on a essayé d'ajouter des bots sur d'autres canaux. Quand on a sorti SNCF Connect, on a mis un chatbot sur le web et le mobile avec un niveau de saisie universel dans toutes les pages en bas de l'écran, pour que les gens, dès qu'ils se posent une question, ils interrogent le bot. Et en avril de cette année, on a mis en place un bot sur le canal Messenger. Et en juillet, on est arrivé sur WhatsApp. Et en fait, on essaie toujours nous d'essayer de comprendre, de voir comment on a avancé, est-ce qu'on peut faire mieux. Là, les performances, elles sont au rendez-vous puisqu'on a multiplié par 4 le nombre de conversations avec le bot. Honnêtement, il y a entre 600 et 700 000 conversations self-care via notre bot. Et honnêtement, le taux de réponse, enfin, le taux de questions ou des réponses sont trouvées est de 92 à 95% sur le périmètre France. Et franchement, ça, c'est top. Et pour les usages de mobilité, on a mis en place la barre de recherche universelle. Elle est basée sur le langage naturel et a aussi une innovation majeure pour nos utilisateurs parce que, en fait, plus d'un utilisateur sur deux l'utilise pour directement aller sur consulter un billet, pour avoir un support SAV, pour consulter son compte, etc. Et on a 20% d'entre eux qui inscrivent des mots-clés directement ou des phrases pour rechercher des itinéraires. Et ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, quand on ne peut pas avoir la réponse avec la barre universelle, on renvoie vers le bot pour que le client puisse avoir cet aspect conversationnel, en fait, quand même, et rechercher des choses. Et pour aller plus loin, on fait des... Parce que je sais ce que vous allez me dire, ok, est-ce que vous faites plus ?
Ouais, c'était ma prochaine question.
Vous allez me parler, je suppose, de l'IA générative, à tous les coups.
Notamment, j'imagine, font partie de vos projets. Bon.
Je vais venir à la question. Alors nous, on a fait plein de POC pour incorporer l'IA dans l'implémentation de 2016. On a fait un POC à usage interne comme assistant virtuel, et ce POC, vous savez qui il aide nos développeurs pour une aide au quotidien, pour justement enlever ces tâches répétitives, faire des tests codés, générer des tests complexes, optimiser le code, etc. Donc ça, pour l'instant, le bilan est positif. On va l'étendre à toute l'entreprise si à la fin de l'année, le REX est toujours aussi positif. Mais pour l'instant, c'est que du positif. On a eu plein d'autres POC plus orientés sur la relation client. Et on a des outils supplémentaires pour les conseillers, par exemple. Justement pour qu'eux, ils se focusent sur l'aspect humain et que toutes les autres tâches de relation client soient utilisées, on va dire, par autre chose, donc dans notre cadre, l'IA. Et vous savez, l'IA, qu'elle soit générative ou non, en fait, la clé, et c'est ça, je pense que les gens ont tendance à oublier, c'est qu'elle soit spécifique. Nous, par exemple, l'IA doit être spécifique à notre secteur, aux offres commerciales, en fonction des trajets plus ou moins longs, de changements de temps, etc. Sinon, ça n'apportera rien à nos clients. Et c'est pour ça que nous, on a développé un POC pour perfectionner l'assistance aux voyageurs. Ce POC n'est pas de l'IA générative, c'est du LLM. Et je sais ce que vous allez me dire, ok, mais l'IA générative, est-ce que vous en faites ? Alors nous, on fait toujours de l'exploration. Parce qu'en fait, il y a une clé qui est importante, enfin, il y a quelque chose qui est super important et que les gens oublient en général. Aujourd'hui, on oublie l'IA. Qu'est-ce qu'on fait ? On contrôle. On a des choses en input, on a un traitement, on a une chose en output. Donc, il faut mettre un contrôle. Ah ben aujourd'hui, oui. On arrive à contrôler la personne qui a le clavier et la chaise. On fait en sorte que l'être humain, qui est quand même l'élément le plus instable dans votre écosystème, parce qu'il a des émotions, il peut se tromper, il peut être fatigué, il peut être... Si on arrive à faire ça, je pense qu'avec l'IA, on peut faire beaucoup de choses. Donc nous, sur l'IA générative, on a testé notre super IA star, ChatGPT, que tout le monde connaît. Mmh. On a essayé de le coupler avec Talk, justement, pour faire du conversationnel. Pour moi, ChatGPT, c'est un peu un apprenti. On lui donne des choses, mais il va falloir contrôler, parce que vraiment, faut vraiment contrôler, parce que c'est ses débuts. Mmh. Donc, il fait pas mal de choses un peu bizarres. Nous, on a eu plusieurs hallucinations lors de nos tests, par exemple. Et ça, franchement, c'est pas mal. Il nous a inventé un trajet Paris-Nantes avec un intercité. Il n'y a pas de ligne transport intercité qui fait Paris-Nantes.
Ah oui, ouais, donc ça veut
dire... Il a réussi à l'inventer.
Voilà, il faut le maîtriser quand même. Hein. Oui, effectivement.
C'est ça. Il nous a même... On a vu quand même qu'on a fait d'autres tests. On a fait des tests pour l'introduction, de l'amélioration de contenu, la création d'éléments SEO, de la création de script R. Et en fait, sur la traduction, il faisait des choses pas mal, sauf qu'il faut quand même contrôler parce qu'il a quand même réussi à ne pas traduire, mais adapter en fonction du contexte. Il n'a pas réussi à traduire une ville française, il nous l'a remplacé par des villes allemandes. Alors, l'IA, il faut la considérer comme ce qu'on fait aujourd'hui avec l'être humain.
Ouais.
On a de la responsabilité numérique, on doit faire de la donnée responsable, on doit veiller à contrôler ce qui est fait. Il y a tout ce qui est autour de l'éthique aussi.
Ça veut dire que vous faites un gros travail sur la maîtrise de l'IA, finalement, avec des êtres humains derrière. Je trouve ça intéressant. Hein. Ça veut dire que l'intelligence humaine guide, finalement, l'intelligence artificielle. Je trouve ça plutôt intéressant. Et là, c'est vrai que vous n'avez pas le droit d'inventer des liaisons ferroviaires qui n'existent pas, par exemple.
Alors, c'est pas une question de droit. C'est pas une question de droit. Imaginez-vous que, déjà, vous n'allez pas avoir de résultats parce qu'en fait, quand on va aller consulter les systèmes pour avoir les itinéraires, ben, on n'en trouvera pas. L'expérience client sera négative. On ne fera pas du temps au client. Et l'objectif de l'IA, comme on l'a dit avant, c'est de venir apporter de la plus-value et pas de la moins-value, justement.
Petite question, on terminera là-dessus parce qu'on a fait pas mal de temps. Là. On est au début de l'apprentissage de l'IA, si j'ose dire, selon vous, de l'éducation de l'IA. Je ne sais pas comment le dire, en fait.
Pour moi, alors j'étais à une table ronde il y a quelques jours avec beaucoup de mes pairs et beaucoup d'autres personnes qui sont à côté tech, côté métier, côté DSI. Et on a tous convenu du fait que l'IA va venir révolutionner notre quotidien. Mais il va falloir, pour qu'elle révolutionne notre quotidien et qu'au contraire, elle ne vienne pas polluer notre quotidien, il va falloir qu'on n'aille pas trop vite. Mmh. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Pour moi, je fais le rapport avec l'ère du big data. Quand la data est arrivée, qu'on a pu justement avoir du big data, tout le monde a voulu se jeter sur la data. Mais si la data n'est pas qualitative et qu'elle ne sert à rien, qu'elle n'est pas contrôlée, c'est...
L'IA ne servira à rien par définition.
C'est pas qu'elle ne servira à rien. C'est, moi, à mon sens, on risque de... Quand je dis on, c'est, je ne parle pas de SNCF Connect, Ntech, mais le monde entier. Si on met de l'IA trop vite, sans venir vérifier, lui faire faire l'apprentissage qu'on fait aux êtres humains. Quand on a un apprenti chez nous, on va le faire évoluer. Vous n'allez pas dans n'importe quelle société mettre un apprenti et lui donner tout de suite les trucs les plus importants, les plus touchés à faire. Vous allez essayer de le faire progresser. L'IA, c'est pareil. Il faut utiliser notre vision d'humain, comment on ferait avec un être humain, et en mon sens, le faire avec de l'IA pour justement faire en sorte qu'à la fin, on ait de la plus-value dans notre quotidien.
Merci Naïma pour cet éclairage et pour cette vision sur ce qui nous attend. J'ai l'impression qu'on est au début de quelque chose qui nous dépasse peut-être encore un peu, mais à partir du moment où on va maîtriser, comme vous le dites si bien, l'IA au service des humains, il n'y a pas de raison que demain, on n'ait pas de nouveaux services que l'on ne connaît peut-être pas aujourd'hui d'ailleurs, mais qui risque d'améliorer considérablement, je dirais, et que ce soit votre activité, que ce soit, le business des entreprises, et puis les clients finaux qui ont aussi besoin d'avoir des solutions nouvelles et toujours plus simples, mais toujours plus efficaces. Merci beaucoup, Naïma.
Exactement. Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.